بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. On était arrivé l'autre jour, on parlait déjà, on a ouvert le thème des prières facultatives. Mais je crois que le principe, la base de la religion, le principe de din, tout d'abord, vous devez savoir que la religion, le mot plutôt le mot din en islam, n'a pas de synonyme dans toutes les langues occidentales, dans toutes les langues du monde. Din ne veut pas dire, ne doit pas être traduit par religion. Et le mot ad-din a un autre sens. Le mot ad-din en islam, lorsqu'on dit ad-din ou l'islami, c'est dans le sens du manhaj, du système, de la voie. C'est tout un mode de vie. L'islam, le ad-din, ça veut dire, c'est un mode de vie. L'islam, c'est une façon de juger, une façon d'apprécier, une façon de manger, une façon de boire, une façon de se marier, de divorcer, de mourir, de vivre, et ainsi de suite. Tout ça, ça entre dans le mot ad-din. Le mot religion, si j'ai bien compris la langue française, c'est la relation entre l'homme et Dieu. L'islam n'est pas dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il est remarqué, dans beaucoup de musulmans d'aujourd'hui, cette grande lacune d'avoir de mal gérer leur conception de la religion, tellement il y a cette hypocrisie flagrante dans le comportement. C'est pour ça que je me vois un peu obligé d'arrêter un peu le cours, ou plutôt la logique qu'on a suivie, à savoir traiter les dossiers de la loi islamique, de la jurisprudence. On était arrivé sur ce chapitre qui est les prières surrogatoires, et Dieu sait que c'est extrêmement important, tellement c'est rare de traiter ces sujets à travers la vraie sunna du prophète. Et je tiens à vous rappeler, si on fait cette pause et cet arrêt, justement pour faire rappeler cette notion fondamentale qui est le fruit même de l'islam, qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle facilement en langue arabe la taqwa. Et je crois que si on a besoin d'un recyclage quelconque dans un domaine quelconque, ben c'est justement dans ce domaine de la piété, du respect d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa, lorsqu'on dit que veut dire la taqwa, qu'on traduit par la piété ou qu'on traduit par la crainte révérentielle. La crainte révérentielle veut dire révérentielle, c'est une crainte. Mais ce n'est pas une crainte basée sur la peur, mais c'est une crainte basée sur la révérence que nous devons adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est parce que nous l'aimons et nous sommes attachés à lui, c'est pour ça que nous le craignons. Donc c'est une crainte positive. Vous devez tout d'abord savoir que at-taqwa, c'est l'ordre, ou plutôt le conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au premier comme au dernier. c'est-à-dire tous les messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète, c'est préserver Dieu, c'est craindre Dieu. Il a dit dans surat An-Nisa, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِيَّاكُمْ أَنِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Et nous avons conseillé aux gens du livre qui étaient avant vous, et vous aussi, préservez Dieu. Ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam était dans le serment d'adieu, le serment que j'ai traité durant la prière du vendredi, il a fait plusieurs serments. Il n'a pas fait seulement un serment d'adieu, mais il a fait plusieurs serments d'adieu. À chaque moment et à chaque circonstance, il a donné des flashs rapides. Et nos savants, moi je me rappelle lorsque j'étais jeune, parmi les obligations qu'ils nous ont obligés à imposer à apprendre, c'était apprendre par cœur les serments d'adieu du prophète alayhi salatu wa salam. Parce qu'il nous a donné la quintessence de l'islam, le résumé de l'islam à la fin de ses années sur terre, à la fin de ses jours sur terre, il a donné ses lumières. Et parmi ces lumières, il a dit, parmi ses conseils d'adieu, il a dit, ayez la crainte d'Allah, ittaqu rabbakum, ayez la crainte d'Allah. وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ et faites les cinq prières. وَصُومُوا شَهْرَكُمْ et faites et jeûnez le mois du Ramadan. وَآتُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ et acquittez-vous dans le monde en s'acquittant de l'aumône légal. وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ et obéissez à vos gouvernants. Il a dit تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ رَبِّكُمْ et si vous faites ces choses que je viens de vous dire, ben vous entrez, vous accédez au paradis. Mais le premier ordre, c'est Ittaqullah. Si vous voulez savoir le sens de la piété, c'est que devant vous, il y a le châtiment, il y a la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment se protéger de cette colère, ben en dressant entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala une prévention, un mur. Et ce mur, c'est le mur de la soumission, de l'adoration, c'est le mur de s'approcher à ce qu'il aime et de s'éloigner de ce qu'il déteste. Et avant de vous parler des valeurs de la piété, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui énormément. Aujourd'hui, s'il y a un problème qui fait défaut aux musulmans, c'est justement la piété. Il y a très très peu de piété. Aujourd'hui, on peut remplir des livres par la parole. On peut transcrire des livres, on fait des sermons, des discours. Dieu sait combien on a, vous assistez, vous écoutez de cours et de recommandations et ainsi de suite. Mais est-ce que tout ça a un impact sur votre comportement? Est-ce que vous sentez que vous évoluez, vous allez vers Dieu? Est-ce que votre vie devient de plus en plus positive? Autrement, que si vous êtes toujours dans la stagnation, dans la léthargie, ben, c'est la preuve que vous n'approchez pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsque vous ne voyez pas qu'il y a une amélioration. Il n'y a pas d'amélioration dans votre quotidien, dans votre comportement, dans vos prières. L'autre jour, on nous a posé cette question, comment saurais-je que le Ramadan est accepté? Une question que nous recevons tout le temps. Et la réponse est toute simple, il est juste à côté. Wallah, il est juste à côté. Vous n'avez pas de savant pour savoir est-ce que votre Ramadan est accepté. La réponse est toute simple. Regardez-vous durant les jours après le Ramadan. Si vous voyez que vous êtes amélioré, que vous êtes devenu meilleur, c'est la preuve que votre Ramadan est accepté. Si vous voyez que vous avez régressé, que vous avez chuté, ben ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris ce Ramadan et il l'a jeté sur votre figure. Si vous voyez que vous êtes identique, ben vous êtes comme avant. Vous avez, comme on dit, vous êtes comme avant, c'est que vous avez fait un régime. Vous n'avez eu ni de récompense, ni de châtiment, ni de bonne, ni de mauvaise œuvre. Vous êtes à égalité, comme on dit, 0-0. Ni gagnant, ni perdant. Ben, c'est malheureux. Ça aussi, pour nous, ça aussi, c'est une perdition, c'est une perte. Parce que vous vous êtes cassé la figure durant 30 jours, et à la fin, le résultat est zéro. C'est malheureux. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala pose cette question, vous voulez savoir qui sont les hommes qui sont en vraie perdition? La réponse c'est oui, mais c'est dans la fin du surat Al-Kahf. Il a dit, ceux qui font des actes et ils croient qu'ils font une bonne action. Malheureusement, c'est qu'ils ne sont pas seulement des perdants, mais ils ne savent pas qu'ils ont perdu. Et ça, c'est très grave. Quelqu'un qui agit, qui fait, et malheureusement, il ne sait pas, il ignore. Il ignore qu'il a tout perdu. Parce qu'il n'a même pas la lucidité, il n'a même pas l'intelligence pour constater que son comportement est complètement égaré. Et ça, ça, c'est la cécité du cœur. Amal qulub. Il y a la cécité en deux niveaux. Il y a la cécité des yeux. C'est lorsqu'une personne ne regarde pas. Et peut-être, avec peut-être un chien, il sera guidé. Avec une canne, il sera guidé. Avec quelqu'un, il pourra être guidé. Donc, il est sauvable. Il peut circuler. Il y a aujourd'hui des aveugles qui sont plus savants que, plus illuminés que les bons portants. Moi, pas tous, mais 99 de mes professeurs sont des aveugles. Et Dieu sait, je suis prêt à offrir mes yeux par rapport si je peux avoir leur savoir. Tellement, ce sont des montagnes de savoir, mais des aveugles. Les aveugles, heureusement pour eux et malheureusement pour nous. Mais la pire des cécités, c'est celui qui a la cécité du cœur. C'est qu'il n'arrive pas à constater qu'il est complètement égaré. Il est complètement à la marche, il est complètement loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour remettre un peu certaines lacunes de notre vie personnelle et individuelle, je tiens à attirer à votre attention sur notre ennemi juré. Notre ennemi juré, ce n'est pas le tel ou tel ennemi, ce n'est pas le vrai ennemi de l'individu, ben c'est lui-même. C'est vous-même qui êtes l'ennemi de vous-même. Et si le jour du jugement dernier, vous allez être soit, chose que je vous souhaite, Inch'Allah, soit emmené vers le paradis, et les autres, ils vont être complètement emmenés et jetés à l'enfer, c'est à cause d'eux-mêmes. Et leur ennemi, ce n'est pas le tel ou tel, mais loin de la Hachaytan. Loin de la Hachaytan, notre vrai ennemi, c'est nous-mêmes. Et à travers nous-mêmes, et parmi nous-mêmes, si vous voulez, celui qui nous cause des torts, celui qui nous cause des catastrophes immenses, celui qu'on n'arrive pas à le cerner, à le maîtriser, celui qui nous fait chuter tout le temps, celui qu'un jour on va pleurer par va pleurer du sang à la place des larmes, le jour où on va avoir le regret, le jour du regret, le jour du jugement dernier, c'est le jour du regret, Yawm al-Hasra. Ben c'est justement cette membre qu'on n'arrive pas à contrôler qui est la langue. Et j'ai fait un recueil tout simplement, parce que le croyant, il ne peut jamais être croyant s'il n'aime pas à son frère ou à sa sœur ce qu'il aime pour sa personne. Et je n'ai cessé de vous rappeler, si vous avez un défi à avoir, si vous avez un challenge, comme on dit, à relever, ben justement, prenez votre langue comme ennemi. Prenez cet organe, prenez-le comme ennemi et essayez de le défier, essayez de le surmonter, essayez de ne pas le prendre comme tel et de le gérer à ce que vous n'allez plus chuter, c'est lui qui chute. Vous n'allez plus faire des fautes, mais c'est lui qui doit tout le temps être écrasé. Chose qui n'est pas facile, chose qui n'est pas évidente. Parmi les hadiths du prophète alayhi salatu wasalam, il y a le suivant. Et ce hadith, il est, je vous ai dit que dans chaque domaine de l'islam, il y a le hadith de la porte, le hadith principal. dans chaque chapitre de l'islam, il y a au minimum, il y a un hadith qui est le hadith principal, le hadith de base. Normalement, si vous voulez maîtriser le savoir islamique, si vous voulez un peu avoir un bagage islamique, vous devez au minimum apprendre dans chaque chapitre, écoutez bien, dans chaque chapitre, vous devez au minimum apprendre par cœur un seul hadith. Ça, c'est quelque chose qu'ils nous ont imposé à tous les élèves, non pas de la faculté, mais de l'institut religieux, c'est-à-dire le collège religieux. Dans chaque chapitre, parmi les chapitres de l'islam, il faut apprendre un hadith par cœur et le comprendre par cœur. Deux choses qui sont hyper importantes. Chose que je vous rapporte encore à vous, si vous voulez avoir un petit bagage islamique, je veux dire le minimum possible pour ne pas être un savant loin de là, mais seulement pour être un élève dans l'islam, ben il faut apprendre un hadith dans chaque chapitre de l'islam, dans tous les domaines. Pourquoi ? Parce que ben lorsqu'on vous pose une question, ben vous référez automatiquement à ce hadith. Ça, c'est un conseil d'un frère. Ben, le hadith principal, c'est le suivant. Le prophète, alayhi salatu salam, a dit, et l'homme, il parle, il formule une parole par l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se doutera jamais qu'elle a atteint ce qu'il a atteint. Allah subhanahu wa ta'ala va lui inscrire son agrément. C'est-à-dire, tellement il a prononcé cette parole, tellement elle était meilleure, elle était bonne. C'était quelque chose de sincère. Et il l'a prononcé au fond de lui-même pour solliciter le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tellement elle était dite qu'elle était spontanée. Elle n'était pas fabriquée comme ces invocations fabriquées qu'on voit par exemple durant le pèlerinage, l'un dit un mot et les autres répètent après lui, on dirait des perroquets après leur guide. Non, c'est le spontané, c'est le naturel. Ben lorsqu'on, cette personne a prononcé cette parole naturelle, et tellement elle était bénéfique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a transcrit, au même moment, son agrément. L'agrément, ce n'est pas le paradis, c'est plus que le paradis. L'agrément Ar-Ridwan, alhamdoulilah. L'agrément, c'est entrer au paradis, c'est éviter l'enfer, c'est manger, dormir au paradis, c'est regarder là le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après tout ça, ben, il y a l'agrément. C'est la meilleure des récompenses, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Ben, parce qu'il a prononcé une parole. Ben, l'autre, et c'est le plus grave, l'autre il a dit. Et parmi les hommes, il y a quelqu'un qui prononce une parole issue de la colère, c'est-à-dire issue de la colère d'Allah, issue de l'interdiction, au fruit des choses qui sont interdites, sans penser ce qu'il a pensé, tellement son cœur est malade qu'il n'a pas pu détecter le mal qu'il a fait. Et ça, c'est plus grave. C'est quelqu'un qui prononce une parole mauvaise et il ne sait pas qu'elle est mauvaise. Et ça, c'est la pire des créations. C'est cette personne-là. Et alors, le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, au même moment, il lui transcrit sa colère jusqu'au jour du jugement dernier. Ce hadith que je viens de vous citer, plusieurs compagnons disaient, on a des choses à dire durant leur vie, leurs relations, leurs conflits, leur et ainsi de suite, et ils voulaient dire des choses, ils voulaient répondre, ils voulaient témoigner, ils voulaient attester, ils voulaient répondre à leurs époux, à leurs enfants, à leurs voisins, à leur, et ils disent, ce hadith que je viens de vous citer maintenant, ça s'appelle hadith al-Qama, le hadith rapporté par al-Qama. C'est lui le rapporteur de ce hadith. N'oublie pas ce nom. Parce que les compagnons ont dit, et on avait des choses à dire, mais la chose qui nous empêchait de le dire, c'est le hadith de Al-Qama. C'était ce hadith qui nous bloquait, tellement on avait peur de dire quelque chose, et à travers cette chose, on ne sait pas est-ce que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sera transcrite. Ils n'avaient aucun doute des choses positives de les dire, mais c'est l'autre côté qui leur faisait peur. Deux grands savants, une petite anecdote tout simplement, deux grands savants étaient réunis et l'un a dit à l'autre, oui.
Est-ce que vous pouvez dicter un texte que vous avez dit en le commentant et...
Oui, en langue arabe ou en français Oui. Inna ar-rajul la yatakallamu bil kalimati min. Oui, d'accord. Inna ar-rajul. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله من سخط الله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة c'était mieux d'avoir le fin stylo. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل donc là ici l'homme il prononce une parole ici de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala il ne doutait jamais qu'elle atteindra ce qu'elle a atteint. Allah subhanahu wa ta'ala va lui inscrire son agrément jusqu'au jour du jugement, jusqu'au jour où il le rencontre. Jusqu'au jour de sa rencontre, c'est mieux. Voilà. Deuxièmement, l'autre personne, et c'est celui-là que je vous dis, attention. Normalement, pour vous taquiner un peu, le hadith dit, inna rajula, selon la règle de l'islam, que ar-rajul, ça veut dire l'homme et la femme. Mais je dois dire ici, si vous voulez, si j'ai... J'ai ce plaisir sournois de vous taquiner. C'est normalement, on dirait, inna al-mar'ata. Et la femme. Parce que c'est ça la catastrophe, c'est que le grand nombre de l'enfer, c'est les femmes à cause de leur langue. Lorsque le hadith du prophète a dit que j'ai vu le feu, et j'ai vu la majorité de ceux qui sont dans le feu, les femmes, ce n'est pas à cause de la fornication, à cause de ceci ou de cela, loin de là, ce n'est pas à cause que l'islam a taxé les femmes d'être inférieures, non, mais seulement parce que c'est la langue. « Wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah » ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة C'est bon? Donc, je vous ai donné un faux prénom, c'est Hadith ou Bilal. Donc, le Hadith, il s'appelle Hadith ou Bilal. Bilal. Pas Bilal le Mouaddin, un autre qui a le même prénom. Un autre hadith que vous connaissez par cœur. Oui? De plus la semaine prochaine, on va traiter cette question de la langue parce qu'il ne faut pas être bousculé d'un bout à un autre. Contraire, parce que la bouche, il faut qu'elle se tait, ou bien il faut qu'elle parle. Donc il y a toute une loi, il y a toute une recommandation, il ne faut pas dire il faut se taire, non. Il faut, l'islam est basé, et même il est basé sur le langage, sur la façon de prêcher, de dire, et ainsi de suite. Mais lorsqu'on parle de la langue, donc, il faut reconnaître que c'est le côté négatif des choses. Et aujourd'hui, qui nous fait mal, qui nous fait mal. Est-ce que le bon message ou le bon discours ou le mauvais, la mauvaise utilisation ou la bonne, c'est la mauvaise qui est ciblée aujourd'hui par le cours et non pas la contraire. Au contraire, il y a une certaine avarie par rapport au bon langage, au bon discours, et c'est ce côté néfaste, ce côté négatif, cette mauvaise utilisation de la langue et jamais le côté au contraire. Ce qu'il y a de meilleur. Il suffit de dire « La ilaha illallah » ça c'est parmi les plus belles paroles, quelqu'un est entré au paradis à cause d'une phrase, pas plus. Donc c'est le côté néfaste, le côté négatif de la langue, et non pas le côté positif. Oui, ma soeur. C'est-à-dire, Makan Ayadoul, il ne se doutait pas de la nocivité de sa parole. Tellement il a le cœur mort, qu'il n'a aucun sentiment pour détecter que la parole qu'il vient de prononcer est mauvaise. Tellement c'est un ignorant, ou plutôt, il a ignoré à ce moment-là, un ignorant perpétuel, ou sur ce moment, il a ignoré qu'il n'a pas pu cerner la nocivité de sa parole. Ouais. Ouais, tellement elle était bonne, tellement elle était merveilleuse, qu'il ne se doutait pas qu'elle était bonne et merveilleuse. Ça c'est le côté du bien, il est sans limite. Vous savez, lorsque quelqu'un a prononcé cette parole, en louant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Le barème des anges pour récompenser cette parole était vide. Il y avait une absence, un vide dans le barème. Il a prononcé quelque chose que les anges n'avaient pas dans leur barème. Un homme a prononcé une chose, comme je viens de vous dire maintenant. Les anges, lorsqu'ils voulaient le récompenser, ils ont vu, on n'a pas cette parole. Et vu qu'ils étaient justes, et les serviteurs du juste, ils sont retournés chez Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont dit, ton serviteur a prononcé quelque chose qu'on ne sait pas comment le récompenser. Et Allah a dit, et il savait qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, qu'est-ce que mon serviteur a dit? Il a dit, Allahumma lak alhamd, Seigneur Allah, tu as les louanges, kama yallaghi li jalali wajhika wa adhimi sultani. Selon la majesté de ton visage et la grandeur de ton royaume. Et cette formulation, cette nouvelle formulation, n'était pas inscrite dans le barème. Et Allah a dit, inscrivez cette parole à mon serviteur comme tel, c'est moi qui vais le récompenser. Oui, Allahumma lak alhamdu, kama yanbaghi. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حديث donc ce hadith c'est le hadith qui donc le hadith que je viens de vous dire maintenant c'est hadith ou bilal. Donc les compagnons ont disait plusieurs choses qu'on voulait dire mais ce hadith nous empêchait nous empêcher de le dire. Lorsque le hadith Mu'ad que vous connaissez certainement, lorsque le prophète a.s.w. a étalé toutes les pratiques et les valeurs de l'islam, et à la fin de ce hadith, il lui a dit ceci. Est-ce que tu veux que je te dise? Il a parlé de l'attestation, de la foi, de la prière, de la zakat, du pèlerinage, du dhikr, de la patience, de. Il a rapporté l'essentiel de l'islam. C'est ça l'islam, si vous voulez, par dire à quelqu'un qu'est-ce que c'est l'islam, lisez le hadith de Mu'ad, il est rapporté dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et à la fin, le prophète dit à Mu'ad, est-ce que tu veux que je te dise l'essentiel de tout ce que je viens de te dire maintenant, c'est-à-dire le résumé, la quintessence de tout ce que je viens de te dire maintenant. Et Mu'ad, étonné, lui dit oui. Et ça, c'est la valeur de l'enseignant. Avant de donner le général, il commence par des détails. Il détaille, et à la fin, il lui résume tous ces détails par une règle. Et lui dit, est-ce que tu veux que je te dise celui qui contrôle tout ça, le fruit de tout ça, la conséquence de tout ça? Et à ce moment-là, Mu'ad lui dit, oui, je veux bien. Et le prophète, chose bizarre, il a sorti sa langue, et il a pris sa langue entre ses mains, et il a dit, arrête ça. Arrête, contrôle ça. Kuffa alayka hada. Et Mu'ad était étonné. Comment? Et l'attestation de la foi, et la prière, et zakat, et tout ça. Et à la fin, il lui dit, qui contrôle tout ça? Il lui dit, c'est la langue. Et c'est vrai, c'est un peu étonnant. Et Mu'ad lui dit, est-ce que nous serons récompensés par le fruit de par les actions de notre langue? Est-ce que nous serons récompensés ou rétribués par les fruits de notre langue? Et à ce moment-là, il a reçu une claque. Elle s'appelle la claque de Mu'ad. Il a reçu quelque chose qu'il n'a jamais pensé recevoir du prophète, alayhi salatu wasalam, lui qu'il était gâté. Mu'ad était gâté par le prophète. C'est vrai qu'il l'aimait. Et il lui a dit, Mu'ad, je t'aime. Tellement Mu'ad était quelqu'un d'aimable et d'aimé qu'il était aimé par le prophète, alayhi salatu wasalam. Et il croyait que son statut le préservait tout le temps. Mais malheureusement pour lui, vu ce qu'il vient de prononcer, cela ne l'a pas aidé. Et le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit que ta mère te perde, Mu'ad. Ça c'est une petite critique qui était dans la période des Arabes. Que ta mère te perde, c'est souhaiter la mort de quelqu'un. Ce n'est pas souhaiter la mort de quelqu'un, mais seulement une parole qu'on dise. Les paroles qu'on dise quand vous dites mince, et ainsi de suite, les paroles que les gens disent aujourd'hui, avant l'islam et après l'islam, on disait taqilat ka ummuk, que ta mère te perdra. Tellement tu as fait quelque chose de mauvais. Taqilat ka ummuk ya Mu'ad, ça veut dire que ce que tu as fait, c'est inimaginable. Dans une autre version, il lui a dit, si quelqu'un l'avait dit autre que toi, je l'aurais accepté. Mais toi, Mu'ad, le savant, t'as dit ça? L'oreille qala ya Mu'ad. Il a dit, est-ce que tu ignores que la cause de la chute des gens sur leur front ou sur leur visage dans les feux de l'enfer n'est que le fruit de leur langue? وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ que la récolte de leur langue, c'est-à-dire ce qui fait entrer ouvertement à l'enfer, c'est la langue. Un jour, quelqu'un est venu vers Abu Bakr. Abu Bakr, vous imaginez Abu Bakr, aujourd'hui on est combien de musulmans? Aujourd'hui on est combien? 1,3 milliard, c'est ça. Depuis l'islam jusqu'à la fin de la vie sur terre, combien il y aura de musulmans? Donnez un chiffre. Ouais. Depuis, c'est combien? Disons 20 milliards. Disons 20 milliards. 15 milliards. 10 milliards. Ça vous arrange 10 milliards? 4 milliards seulement. Ben imaginez que la foi d'Abou Bakr se pose sur un plateau de la balance. Et tous les musulmans, et les musulmans sur une autre, la foi d'Abou Bakr a plus de pesée, a plus de valeur que toute la communauté. musulmane. Pour vous dire la valeur de cette personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La valeur d'Abu Bakr. Et Abu Bakr n'a ne cessé de dire « ma ». Ce mot veut dire en langue arabe « arrête ». Arrête, « ma ». En langue arabe « arrête ». Et il prenait sa langue et il disait « ma », « arrête ». Et quelqu'un lui a dit tu ne cessais de dire « ma, ma, ma ». Pourquoi tu le dis ? Il n'a rien voulu savoir. Et une autre fois, une deuxième. Et lorsqu'il était harcelé, Abu Bakr, avec sa valeur, il a dit « c'est ça ». Il a pris sa langue, c'est cet organe qui va m'emmener vers les catastrophes. C'est cet organe qui va m'emmener vers les catastrophes. C'est-à-dire, et lui, c'est Abu Bakr. Avec la foi qu'il avait, tellement il avait la foi, le seul qui était imam, le seul qui était imam devant le prophète, alayhi salatu wa sallam. C'était lui. Aucune personne n'avait ce statut. Aucune. Personne. Et malgré ça, il dit, c'est ça qui me cause les catastrophes. Deux savants musulmans ont eu cette petite discussion, et l'un a dit à l'autre, combien t'as recensé comme erreur du fils d'Adam, c'est-à-dire les erreurs, elles se font à combien? Et l'autre a dit, elles sont nombreuses, mais je peux les calculer entre 5000 et 6000. Et à la fin, il a dit, et j'ai trouvé qu'un seul comportement peut effacer toutes ces chutes et effacer tous ces péchés, les 5000 ou les 6000. Et l'autre lui dit, c'est quoi? Il a dit, protéger sa langue, préserver sa langue. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a vu le jour du jugement dernier. Il savait certainement que le prophète a vu, Allah lui a ouvert une lacune, une lucarne du monde de l'invisible. Il a ouvert une petite fenêtre et il a vu des événements que personne n'a vu. Que ça c'est seulement le prophète qui a vu des événements du jour du jugement dernier. Et parmi les choses qu'il a vues, il a vu des gens qui avaient des ongles en forme de griffes. Et il les enfonçait dans leur visage, en haut de leur visage, et ils se griffaient jusqu'à ce qu'ils ont levé la chair de leur visage. Et lorsque la chair de leur visage est complètement enlevée, elle revient comme avant, et puis ils refaisaient le même geste, en continuation. Et lorsqu'il a posé cette question, qui sont ces gens-là? Il était accompagné par Jibril, l'ange Gabriel. Et il a dit, qui sont ces gens-là? Il ne savait pas qui était soumis à cette atrocité, qu'ils ont enlevé leur visage et leur poitrine. Et l'ange Gabriel lui a dit, ce sont les gens, littéralement, la traduction littérale, ce sont les gens qui mangent la nourriture de leurs frères. Et ils s'enfoncent dans leur dignité. Alladhina ya'kuluna luhum an-nas wa yaq'una fi a'radihim. C'est-à-dire manger la chair de leur frère est une référence au verset coranique. Le verset coranique qui parle de la médisance, al-riba, celui qui parle de son frère. Vous avez vu votre frère en train de voler. Vous avez vu avec vos propres yeux. Vous ne devez pas rapporter ça. Vous avez constaté, c'est-à-dire ce que vous avez le droit de dire, mais c'est interdit de dire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas menteuse, parce que vous avez vu de vos propres yeux, mais c'est interdit de le dire. Tout simplement parce que c'est de la médisance. La médisance, c'est dire du mal sur le dos de son frère. Vous voulez lui dire quelque chose, ben dites-lui directement. Allez vers lui, dites, voilà, je t'ai vu en train de faire. Ça, c'est le comportement du musulman. Pourquoi t'as fait ça? Et en plus, il ne faut pas le faire en public. Il faut le faire dans l'intimité. Si vous voulez l'agrément d'Allah, ben le faites faire entre les deux. Ça, c'est le comportement du musulman. Parce que ça veut dire, vous voulez du bien pour le frère. Mais seulement se baser sur votre savoir pour dire du mal, c'est la médisance. Et lorsqu'Allah a rapporté cet événement, il a dit, est-ce que l'un de vous veut manger la chair cadavérique de son frère? Meitan. Meitan, c'est pas Meitan. Meitan, en langue arabe, c'est le cadavre. Mais imaginez votre frère. Votre frère, que ce soit dans la religion, ou que ce soit même pas votre frère, un homme tout court, imaginez que vous mangez la chair cadavérique, mita, jifa. Pas seulement un homme, un être humain, imaginez un mouton qui est mort cadavre. Est-ce que vous arrivez à manger sa viande? Ben vous n'arrivez pas à manger. Ben imaginez la gravité de la chose, c'est lorsque vous parlez en l'absence de votre frère ou de votre sœur, et vous dites la vérité. Ça, c'est de la médisance. Mais lorsque c'est un pur mensonge, lorsque ce que vous dites n'est pas la vérité, ça s'appelle al-buhtan, faqad bahatta. Al-buhtan, c'est le mensonge le plus grave. C'est le mensonge que jamais le croyant ne peut l'être. Lorsqu'on a dit, est-ce que le musulman peut forniquer? Il a dit oui. Est-ce que le musulman peut voler? Il a dit oui. Est-ce que le musulman peut mentir? Il a dit non. C'est ce mensonge-là. À savoir celui qui ose inventer des paroles et les attribuer à ses frères ou à ses sœurs d'une manière, pour faire du mal tout court, ben ça veut dire la personne qui ose formuler ce genre de choses, il n'a pas la foi. Il est à la frontière de l'islam et de l'extérieur. Tellement le minimum de la foi qui pouvait le protéger, ben il l'a complètement perdu. Il l'a complètement perdu parce que s'il avait quelque chose qui le protégeait, ben il l'aurait protégé à dur du mal. Je souhaite que, avant de dire, ben il faut remettre en question la conséquence de la perte, la conséquence, plutôt la gravité de ce que la personne va perdre. Le prophète, alayhi salatu wasalam, lorsqu'il savait que quelqu'un a menti, il était tout le temps fâché contre lui. Il était tout le temps fâché contre lui jusqu'à ce que cette personne montrait le repentir. Jusqu'à cette personne qui a osé faire un mensonge. Montrer un repentir clair. Et à ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wasalam, lui redonnait sa satisfaction. Il a dit aussi, Ya ma'shara man amana bi lisani. Il s'adressait à cette catégorie de gens. Il a dit, oh vous, cette partie de musulmans, qui a cru par la langue, mais la foi n'a pas atteint le cœur. Ce n'est pas les nouveaux convertis, non. Parce que dans ce niveau, on est tous identiques. Tous identiques au niveau. Normalement, nous devons avoir deux niveaux. Par notre relation à l'islam doit être basée sur deux fondements de socle individuel. Le socle de l'islam et le socle de l'iman, la foi. L'islam, c'est la base extérieure. C'est le côté extérieur, le côté apparent. Et l'iman, la foi, c'est le côté invisible, le côté caché, le côté du cœur. Et pour être le musulman ou le croyant, ben, il faut remplir les deux. Il faut remplir les deux niveaux. Et puis, c'est adressé à cette catégorie de gens qui sont musulmans par la bouche, mais n'ont pas atteint le niveau de la foi. Pour vous dire que déjà c'est le premier jugement, que celui qui mérite ce statut, il a seulement l'islam. Il a le musulman. Il a le musulman. C'est tout ce qu'il a. Mais l'iman, la foi, c'est autre chose. L'iman, c'est un autre degré. C'est un autre degré. Il n'est pas garanti que vous soyez aimé par Allah, seulement par l'islam. C'est pas garanti. Vous pouvez être accepté. Mais être aimé, c'est autre chose. C'est comme quelqu'un, il accepte ses employés. Mais il ne les aime pas, il aime certains. Sans aucune analogie, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose, il accepte. Une personne qui devient musulman, il est accepté. Ben, sois le bienvenu. Mais ne me dis pas que je t'aime. Si je t'aime, il faut que tu montres quelque chose d'autre. Ben, pour qu'Allah nous aime, ben, il faut montrer la foi. Al-Iman. Al-Iman. Il a dit, ne suivez pas les secrets des musulmans. Et ne suivez pas leur chute. C'est-à-dire, n'essayez pas d'espionner la vie privée des musulmans et ne cherchez pas leurs erreurs et leur chute. Parce que celui qui espionne son frère, celui qui suit les traces de son frère, ce qu'on ne peut pas attribuer à Allah espionner, « فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ » celui qui suit la vie privée de son frère ou la vie cachée de son frère, Allah suivra sa vie. Allah va faire la même chose. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala suit sa vie, il va le démasquer publiquement. Pour vous dire que le défendeur, que celui qui défend le croyant, c'est-à-dire même la vie privée de quelqu'un, si cette personne a une vie privée quelconque et vous essayez de la démasquer, de l'espionner, de la suivre, ben vous, le premier qui se met en colère contre votre comportement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous suivez la vie d'un musulman et d'une musulmane, ben Allah va suivre votre vie. Vous n'arrivez pas à détruire ce croyant. Et Allah va vous détruire vous-même. Parce que vous avez osé porter atteinte à quelqu'un qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Un grand savant a dit, je souhaite que cette valeur, et ça fait peur. Ça fait peur, un grand savant qui s'appelait Ibrahim At-Tamimi. Il a dit, Inni la ajidu nafsi tuhadditouni bichay. Des fois, mon intérieur me poussait à dire des choses. À l'intérieur de moi-même, je voulais dire des choses. Tellement ça brûlait dans mon poitrine que je voulais dire des choses. Mais c'est seulement la peur d'être là, mais seulement la peur de faire la même chose qui me poussait à ne pas le dire. Ça veut dire que la peur un jour de faire la même chose. J'ai critiqué un voleur, mais je ne lui dis pas que je t'ai vu voler. Pourquoi je ne le dis pas? Parce que j'ai peur qu'un jour, Allah va m'éprouver par la même erreur, qui est le vol. Donc je le tais. Et je me tais, je me casse. Et je dis rien. Si quelqu'un fait des erreurs, ben, vu que je ne peux pas me contrôler et je ne sais pas quelle est la part d'Allah dans cette formulation et quelle est la part de ma personne. Et ça, c'est le piège du shaitan. Lorsque vous voyez quelqu'un faire une erreur et vous voulez lui dire ce que tu fais est mauvais. Dans ta formule, dans cette critique, quelle est la part d'Allah? Pour qui tu le fais? Oui, facilement, on peut le dire. On peut le dire, c'est pour Allah. Mais réellement, est-ce que c'est pour Allah ou seulement une partie pour Allah, une partie pour toi-même, pour écraser l'autre? Celui qui fait la faute, ben il est déjà humilié par la faute. Et lorsque vous venez et vous commencez à l'écraser par les critiques, et surtout lorsque il est en flagrant délit, parce que la personne est emmenée auprès du prophète alayhi salatu salam, ivre. C'est un compagnon du prophète et il était ivre. Et un compagnon n'a pas pu résister à ce que je viens de vous dire maintenant. Il lui a dit, maudit sois-tu. Tout le temps, on te ramène auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ivre, t'as pas honte. Il lui a dit, maudit sois-tu. Et le prophète était en colère. Il dit, tais-toi. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de le dire. De faire ce... Déjà, le fait d'être devant moi, c'est déjà une honte. Et toi, tu rajoutes sur ton frère. Devant le prophète, il est ivre. Qu'est-ce que tu veux de... Quelle humiliation pire que celle-là? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ben, il fallait se taire, tout simplement. Et le prophète, alayhi salatu salam, avec la miséricorde qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a accordé, il lui a dit, tais-toi. Est-ce que tu ignores que... Il a montré cette personne, il a dit qu'il aime Allah et qu'il aime son messager. Que cette personne que tu critiques maintenant, malgré le vin qu'il a bu, mais il aime Allah. Ala ta'lamu annahu yuhibbu Allah wa rasoulah. Et ça a donné à ceux qui veulent critiquer les autres ou prêcher ou ainsi de suite, de modérer un peu leur formule et ainsi de suite, dire peut-être. Peut-être, est-ce que ce que je dis maintenant est réellement, je ne le fais pas. Est-ce que réellement, j'ai trouvé une excuse pour mon frère. Est-ce que ce qu'il a fait, ce qu'il a fait aujourd'hui, est-ce que ce n'était pas à cause d'eux? Et il faut trouver 1000 excuses. Et c'est ça, le prophète, alayhi salatu salam, a dit, le signe de l'ivre du croyant, il trouve 1000 excuses pour ses frères. C'est une parole d'un compagnon du prophète, pardon. Il a dit, et ça, prenez ça, ce code comportemental comme un engagement. Il a dit, le croyant, il trouve 1000 excuses pour ses frères. Et ça, c'est le sens des savants. Lorsqu'on va devant un savant, et on commence à lui rapporter un événement, on lui dit, voilà, et voilà, et voilà, et la première chose, c'est qu'il commence à dire les excuses. Mais peut-être qu'il ne savait pas. Peut-être qu'ils étaient sous la contrainte. Un jour, je me rappelle, c'était ici à Genève, à l'hôtel Warwick. Un savant a écrit une lettre à un chef d'État arabe. Et moi, je n'ai pas aimé. Et j'ai pris cette lettre et je l'ai emmenée à un grand savant qui était en visite ici à Genève. C'est une histoire très ancienne. Et je lui dis, regarde, la personne que tu nous recommandais, regarde qu'est-ce qu'il a écrit. Et ce cheikh était étonné, le pauvre. Il a écrit, et je vous dis, moi, au fond de moi-même, j'ai dit, voilà, j'étais satisfait comme quoi j'ai trouvé une pièce qui va détruire ce savant, plutôt ce savant qu'on croyait critiquable. Et il a lu ce texte, il a lu cette lettre, il a dit, écoute, moi je ne vais pas écrire la même lettre. Mais je ne suis pas dans sa place. C'est pour ça que je lui trouve 1000 excuses. Toi, tu vis à Genève. Moi, je vis ailleurs. Mais lui, il vit dans un autre pays. Donc, il faut trouver 1000 excuses à ton frère. Ben, c'est ça la leçon des savants. Ben, ce qu'il a écrit, c'est une preuve matérielle contre lui. Ben, le savant, il dit, ça c'est la lumière du savoir islamique. Le savant, il dit, peut-être le pauvre, il était dans un état. Peut-être il était sous la contrainte. Peut-être il était, c'est pour ça. S'il a écrit ce qu'il a écrit, ben peut-être il était dans une situation que nous, on n'était pas. On n'a pas subi les mêmes difficultés. Et ça, c'était une leçon que moi, personnellement, j'ai reçue et que Dieu m'a apporté énormément de bien. C'est-à-dire que même si on lit quelque chose, ben il faut tout le temps. Le minimum des choses, c'est qu'il faut écrire à la personne. J'ai lu que tu as écrit ceci et cela. Ou tu as dit ceci et cela. Est-ce que tu veux bien m'expliquer pourquoi tu as dit ainsi de suite? Ça, c'est la plume de la piété. C'est la plume de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud a dit quelque chose aussi de phénoménal. Il a dit... Les épreuves sont attachées avec la parole, sont conditionnées par la parole. C'est-à-dire, avoir une épreuve, avoir un malheur plutôt, un malheur est attaché avec la parole. Et si je me moque, c'est ça la parole de Abdullah ibn Mas'ud, et si je me moque d'un chien, écoutez bien, comment ils ont atteint ce degré de la piété. Abdullah ibn Mas'ud, il est le quatrième savant parmi les savants du prophète alayhi salatu wasalam. Les grands élèves du prophète alayhi salatu wasalam, Abdullah ibn Omar fait partie de ces quatre. Quatre jeunes, plutôt. Les quatre jeunes savants. Et si je me moque d'un chien, j'ai peur qu'Allah me transforme en chien. Imaginez quel niveau, le degré du niveau qu'il a élevé. C'est-à-dire, il a dit, c'est des fois, avoir un malheur est attaché avec nos paroles, avec une chose qu'on a dite. Et si des fois je me moque d'un chien, ben j'ai peur qu'Allah me transforme en chien. Et n'oublie pas ce dialogue quotidien, chaque matin de vos journées qu'Allah vous accorde et vous prête à vivre. Chaque matin, il y a ce dialogue entre vos organes et votre langue. Ittaqillaha fina. Les organes du corps s'adressent à la langue et lui disent crains Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. C'est grâce à toi que nous allons au paradis. Ou à cause de toi que nous allons à l'enfer. J'ai un collègue, hein. je vous raconte une petite histoire qui a fait presque la destruction d'un grand imam en Belgique. C'était un ami, on a étudié des années ensemble, et quelqu'un lui a demandé une fatwa. C'est une histoire comme ça, c'était une catastrophe. Cette histoire datait d'une vingtaine d'années. Et Dieu sait que c'est un imam d'une grande valeur en Belgique. Et quelqu'un lui demande un service. Et lui, il a dit, je ne peux pas, ça ne m'appartient pas, c'est à cause de... Je suis le directeur de ce centre, mais je ne peux pas accorder ce que tu demandes, parce que ça ne m'appartient pas, ça appartient à la communauté. Et l'autre fâché, est allé se plaindre au consulat de son pays. Il a dit, voilà, une discussion comme ça, et le consul de son pays a dit, écoute, nous aussi, c'est cette personne qui nous fait beaucoup de tort. C'est quelqu'un qui est un peu agressif à l'égard du gouvernement de son pays. Il a dit, ben, si tu peux nous débarrasser de lui, ben fais-le. Il a dit, d'accord, je vais voir. Il dit, je vais voir. Et un jour, il téléphone à son imam, parce que c'était son imam. Il dit, voilà, j'ai un problème entre moi et ma femme, est-ce que tu veux bien nous aider à résoudre ce problème? Des fois, les imams sont naïfs, peut-être. Il a dit d'accord, il a accepté, ils sont venus chez lui, à l'intérieur de la mosquée. Ils sont venus chez lui, et la personne a fait exprès d'aller répondre à son téléphone, à vos téléphones, à l'extérieur du bureau. Et puis, il a repris sa femme, il est parti. Et après, il a dit, ben voilà, l'imam X, j'ai laissé ma femme, je suis revenu, j'ai trouvé l'imam avec ma femme. Et l'information a circulé dans toute la Belgique, et c'est arrivé même à Genève. À l'époque où j'étais à Genève, ben, vous ne pouvez pas imaginer le malheur de ce frère, et Dieu sait, c'est un très grand savant, et d'une grande famille de savants. Et malheureusement, c'est qu'on l'a traîné dans la boue, et le consulat concerné a fait marcher toute la machine de ces mouchards et de ces serviteurs, et ils ont commencé à dire du mal. Et il y a une partie de nous, des musulmans, qui ont cru. Et ils ont cru à tel point que le pauvre a été obligé de quitter la mosquée, tellement il était humilié qu'il a quitté sa fonction, à part une petite partie de fidèles qui croyaient à cet imam. Et c'est à ce moment-là que moi je suis parti de Genève avec un grand cheikh qui était, qu'Allah lui donne la santé, c'est Cheikh Abdelrahim. Cette histoire, c'est très ancien. Il y avait un grand cheikh égyptien qui nous rendait visite de la Mecque. Je suis allé avec lui en Belgique pour un peu soulager cet imam, et on l'a trouvé, le pauvre, parce qu'on l'a touché à ce qu'il avait de valeur, c'était sa dignité, c'était sa morale. On a essayé un peu de le calmer, mais malgré ça, on avait très peur pour lui. Mais si on est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu » Allah défend les croyants. Et au chevet de la maladie, au chevet de la maladie à l'hôpital à Bruxelles, cette personne a avoué devant tout le monde. Il a dit oui, je vais peut-être rencontrer Allah, mais je dois vous dire mon secret. C'est que Cheikh X est innocent. C'est moi qui a tout inventé avec la complicité du consulat, parce qu'il n'a cessé d'être contre, et ses serments étaient tout le temps contre de son pays, contre ceci et cela, et voilà, il demandait au chef de venir me voir parce que j'ai peur. Mais c'est à ce moment-là que tout le monde est venu, mais c'était trop tard. Ils sont venus, ils ont demandé pardon à cet imam, on lui a donné de revenir à la mosquée, mais il n'a plus accepté. Il a préféré rester comme ça éloigné de tout le monde. Tellement, un grand savant a dit des fois, je me préparais à acheter une chèvre. On dit, mais pourquoi acheter une chèvre? Il a dit, pour me m'isoler chez moi et donner mon savoir à une chèvre. C'est bizarre ce qu'il a dit. Il a dit, oui, à une chèvre. Il a dit à une chèvre, il dit, mais pourquoi à une chèvre? Il a dit, tellement le savoir, je ne vois aucune utilité auprès de mes élèves, que peut-être Allah va accorder la lumière à une chèvre, et peut-être, et comme ça je ne vais pas me perdre mon savoir, parce que si on s'arrête de dire les cours islamiques, ben on les perd. Ben pour ne pas perdre sa mémoire, ben il vaut mieux parler, ainsi de suite. Pour vous dire la gravité d'une parole, c'est-à-dire lorsque un homme a rencontré Aïcha radiallahu anha, qui était égaré au plein milieu du désert. Et lui, il voulait l'aider. Il traversait et il a vu Umul Mu'minin, la mère des croyants, abandonnée. Il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Et il dit, ils m'ont abandonné, sans le savoir. Il l'a mis derrière son chamel. Il l'a mis sur sa chamelle et il l'a emmené jusqu'à la ville. Et en entrant, quelqu'un a vu, il a dit, qu'est-ce que Aïcha faisait avec Safwan? Qu'est-ce qu'elle faisait avec lui? Et tout le monde a circulé. Et l'information a circulé. Tout le monde. À tel point qu'une personne qui s'appelait Hamna a fait un calcul terrible. Il a dit, ma sœur, qui est Zainab, est l'épouse du prophète, est la rivale de Aïcha. Écoutez bien, et la rivale de Aïcha, c'est vrai, celle qui était en opposition avec Aïcha, c'était Zainab. La seule qui avait un statut presque identique à Zainab, à Aïcha, était Zainab. Pourquoi? Parce que Zainab a été mariée par Allah. Toutes ces femmes ont été mariées par leur famille, par leur père, par leur tuteur, sauf Zainab. C'est Allah qui a fait la célébration du mariage. Zainab, c'était une dignitaire. C'était une cousine de la famille du prophète, pour vous dire la valeur de cette femme. Et elle était encore très très belle. Et elle était la rivale. Et entre elle et Aïcha, il y avait un conflit. il y avait un conflit, réellement un conflit. Vous connaissez ce conflit lorsque Zaynab a préparé un repas et l'a offert au prophète alayhi salatu wasalam, et Aïcha jalouse, elle a pris le repas et l'a cassé par terre. Tellement elle était jalouse contre Zaynab, pas contre le plat. Non, non, contre celle qui a offert ce plat. Pour vous dire que sa sœur Hamna a fait ce calcul. Elle a dit, si j'arrive à évincer Aïcha, si j'arrive à évincer Aïcha, ben ma sœur aura l'exclusivité du prophète alayhi salatu wasalam. Regardez le calcul. Et elle a fait circuler cette parole dans la communauté. Elle s'appelait Hamna bint Ujash. Elle a fait circuler cette parole durant un mois. Comme quoi, écoutez bien, Aïcha a eu une relation sexuelle avec un homme. Imaginez la gravité. Ça, c'est grave. C'est grave. Il n'y a même pas de qualificatif. L'épouse des croyants, lorsqu'on sait que selon la foi de l'islam, que tous les prophètes avaient des femmes pures. Tous les prophètes, sans exception. Aucune femme de prophète n'a trahi son mari. Ça, c'est la foi islamique. Elle pouvait être mécréante, mais personne n'a trahi un prophète. Ça veut dire que la dignité d'un prophète a été tout le temps préservée, même celle qui était dans l'enfer, comme l'épouse de Lot par exemple. Mais c'était une femme qui respectait la dignité de son mari. Et imaginez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha a été offerte par l'ange Jibril. Il a vu Aïcha dans un rêve et Jibril lui dit, c'est ton épouse. Avant le mariage, il a dit, c'est ton épouse. Ben, imaginez cette personne qui était choisie par Allah. Et Jibril a fait ce qu'il a fait. Et lorsque la réparation, lorsque la révélation est venue, ben, il a pris ces trois personnes, parce que ceux qui ont propagé cette mauvaise parole étaient trois personnes. Il a pris les trois et ils ont donné à chaque personne 80 coups. Ils étaient fouettés 80 coups, publiquement, à la place publique. Écoutez bien la gravité. Lisez sur la lumière, à nous. Tout d'abord, le châtiment corporel. Et le châtiment corporel, ce n'est pas pour faire mal, mais pour les montrer à la société. Faites attention, ils sont tannés. La deuxième punition. Et n'acceptez aucun témoignage de leur part. Ils ne seront plus, entre guillemets, solvables dans leur dignité. S'ils ont vu la lune, écoutez bien, ils ont vu la lune avant le ramadan. Ils viennent vers le juge, ils disent, on a vu la lune. Il dit, vous, allez, casez-vous, allez, partez. J'accepte pas votre témoignage. Vous n'avez pas de témoignage. S'il a une fille à marier, il dit, toi, non, on n'accepte pas ton témoignage. Ni dans le mariage, ni dans rien. Il n'a pas de témoignage. Et ça, c'est catastrophique. C'est quelqu'un qui n'a pas de témoignage, indigne de témoigner. Et la troisième punition, et ils sont un des menteurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont inscrits comme menteurs auprès d'Allah. Prochainement, pour quelqu'un qui a touché l'honneur d'un musulman ou d'une musulmane. والذين يرمون المحصنات ça c'est le verset coranique, ce n'est pas moi qui vous avance ce jour de jour. والذين يرمون المحصنات فجلدوهم 80 جلدة ceux qui attaquent les femmes pieuses dans leur dignité, fouettez-les 80 coups. N'acceptez jamais leur témoignage et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ils seront tout le temps menteurs. À vous d'imaginer la gravité d'une parole. Si quelqu'un dit à un autre, t'as pas de père, tu es fils d'eux, tu es un bâtard, ta femme est une, où ta mère est une, et ce genre de choses, où quelqu'un, il a, où il a toutes ces paroles qui peuvent porter atteinte à la dignité et à l'honneur d'un homme ou d'une femme, où telle personne, elle était quoi? Elle n'était qu'une traînée dans les rues, comme c'est le cas par exemple de certains. Elle était quoi? Ben peut-être avec le repentir et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans un état meilleur que le vôtre. At-taqwa, c'est le but de l'islam. Si quelqu'un vous pose cette question, pourquoi la prière? Pourquoi le ramadan? Pourquoi le zakat? Pourquoi le pèlerinage? Pourquoi le mariage? Pourquoi? Dans tous les chapitres de l'islam, la finalité première, tous les domaines, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voulez savoir pourquoi nous devons faire ceci et cela, c'est pour craindre, c'est pour at-taqwa. C'est pour ça, si vous n'arrivez pas à percer les finalités de la loi islamique, en détectant cette piété, ça veut dire que vous êtes aveugle. Si à travers la prière, même à travers certains gestes qui sont un peu difficiles ou qui sont difficilement palpables, comme la fête du mouton. On prend un mouton et on le tue. Ben si, je vous le dis, ben chez nous c'est plus que la fête, c'est jouer dans le sang, c'est la bouffe, c'est ceci, c'est ça la fête du mouton chez nous. Dans tous les pays arabo-musulmans, c'est ça, la fête du mouton, elle a perdu. Et après c'est la saleté, c'est la catastrophe, mais la fête du mouton, c'est-à-dire la fête du sacrifice dans l'islam, le Coran a dit, Allah n'aura pas ni la viande ni le sang. Mais ni le sang ni la viande n'atteindra Allah, ne sera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais votre piété qui atteindra Allah subhanahu wa ta'ala. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ تَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. C'est à travers ce geste que vous devez relever la piété. Même à travers ce geste. Mais il est où la piété? Il est où ce geste de la piété? Je vais tuer une création, mais il faut trouver le geste de la piété. En se rappelant le geste d'Ibrahim alayhi salam. Ça, la piété tout d'abord. S'il a fait ce qu'il a fait, parce qu'il était prêt à sacrifier ce qu'il avait de meilleur sur terre. Si vous dites à Ibrahim, qu'est-ce que tu possèdes qui? Ou tu possèdes quoi sur terre? Il répondra, je possédais seulement trois choses. C'est tout ce qu'il possédait. On le possédait, c'est beaucoup. Il possédait son épouse, il possédait sa servante et son fils. C'est tout ce qu'il avait. La vie d'Ibrahim tournait autour de ces trois personnes. C'est tout ce qu'il avait. Il n'avait pas de résidence. Il n'avait pas de fortune. Ibrahim, c'était quelqu'un qui vivait au jour le jour. Il n'avait jamais acheté un terrain. Il n'avait jamais habité continuellement pour toujours une maison. Ibrahim était un routard tout le temps. Il ne résidait jamais. Tout le temps, c'était un routard, un immigré potentiel. Mais il n'avait que ce garçon et sa femme et Agar, sa servante. Ben, Allah lui a recommandé, lui a ordonné de le tuer pour lui. Et malgré ça, il l'a fait. Ben, c'est le sens du sacrifice. C'est ce sens de sacrifice que la personne doit relever, c'est-à-dire sacrifier son temps, sacrifier un peu de sa personne, sacrifier un peu de sa fortune auprès d'Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est seulement un exemple. Donc, tous les éléments, tous les chapitres de l'islam, la première finalité, c'est la piété. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont les bienfaits de la piété? C'est-à-dire, si, si, si moi je vous recommande la piété à taqwa, peut-être la semaine prochaine, je vais vous traiter quels sont les moyens pour acquérir cette piété. Parce que je crois que c'est très important à ce que vous devez vous améliorer. C'est que aujourd'hui vous ne connaissez rien de l'islam. Malheureusement, des fois, on est derrière la plaque. Des fois, on peut vivre, malheureusement, les vrais perdants, c'est vivre des années et des années en islam et ne rien déguster de cette religion. Ça, c'est la vraie perdition. Et Ibn Taymiyyah a dit, ils sont perdants, c'est les hommes d'aujourd'hui. Ils cherchent le paradis. Ils cherchent le paradis. Et le paradis, il est à Damas. Il est là, parce qu'il était le savant de Damas. Il a dit, le paradis, il est là. Avant d'aller au paradis, je ne sais pas dans quel ciel il est, il a dit, le paradis, il est là. Et lorsqu'on a dit, mais il est où? Ils ont cru que c'est dans un quartier parmi les quartiers de Damas. Il a dit, c'est dans l'adoration d'Allah. C'est le fait d'adorer. Ça, c'est la vraie adoration. Et le fait de ne pas escalader les degrés de l'adoration, les degrés de la foi, des fois, malheureusement, on se perd. On perd beaucoup de choses. Soufiane al-Thawri, qui était le savant de Bagdad, et un jour, il était seul avec ses élèves, en plein milieu de la nuit, et il leur expliquait les valeurs des noms et des attributs d'Allah. Il a commencé à expliquer chaque nom, et à chaque nom, ses élèves pleuraient. Pleuraient, mais c'est larmes de satisfaction. Et à la fin, il a dit « Wallah ». À la fin, au milieu de la nuit, il a dit ceci, il a dit « Wallah ». Vous êtes dans un bonheur inaccessible au calife. Inaccessible au calife. Et si le calife pouvait l'avoir en donnant tout son royaume, il l'aurait donné. Ce bonheur au plein milieu de la nuit, et d'être dans la satisfaction totale, et d'être prêt à mourir. Et ça, c'est pas quelque chose à donner à n'importe qui. Imaginez-vous, moi-même qui vous parle maintenant, qui se prend comme conférencier, vous êtes des élèves, est-ce qu'on est prêt à mourir maintenant? Oui, on peut le dire, oui, cher, oui, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce qu'il suffit de voir. Il suffit de voir nos erreurs et nos péchés pour dire non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Un jour, on a rendu visite à un frère qui était à l'hôpital de la colline. Il était à Neuchâtel, une histoire que je vous raconte. Il voulait sortir à travailler, il ne pouvait plus se relever. Il a essayé de se lever, et puis il est retombé sur son fauteuil, l'a emmené à l'hôpital. Non, pas avant ça. Il a dit, et tout d'un coup, j'ai commencé à sentir la froideur monter de mes orteils. Elle a commencé à monter. Et lui, il nous racontait ça, et j'étais avec le cheikh Yahya et le frère Abdallah, et voilà, on était crispés, c'est-à-dire deux imams et le frère Abdallah, et lui qui était notre élève, il nous racontait cet événement, et nous, on avait peur de ce qu'il racontait. Et il a dit, et ça montait, jusqu'à ce qu'elle a atteint mon nombril, et la froideur s'est arrêtée. Et un frère lui a dit, il a eu le courage de lui dire, lorsqu'elle montait, t'as pensé à quoi? Et à ce moment-là, il a pleuré. C'est un frère Rami, c'est un frère de Neuchâtel, mashallah, c'est qu'Allah lui donne, mashallah, la totale guérison. Et à ce moment-là, il a pleuré. Lui qui pleurait déjà à n'importe quoi, il pleurait déjà tout le temps. À ce moment-là, wallah, il n'arrivait pas à formuler la réponse, et à la fin, il a dit, j'ai pensé à deux choses. À mes petits-enfants que je vais laisser seuls, il a trois petits-enfants en bas âge, et à mes péchés. Je n'ai pensé seulement à ça. Eh bien, je crois que c'est bon. Je souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la longue vie dans la piété, mais imaginez cet événement. Imaginez que cet événement arrive à vous aussi et vous n'avez pas la possibilité de reprendre la vie. Regardez les péchés que. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne, inshallah, le pardon total. Je vais m'arrêter là-dessus, je vais reprendre ce sujet, inshallah, je vais parler, bien là, de les moyens pour être pur, inshallah. J'avais des choses à dire, mais je préfère ne pas les dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde sa satisfaction. Oui. Plus fort aussi. Ça dépend. Ça dépend. Je crois que ça aussi, ça mérite d'être éclairci. Oui, je crois que je vais me réserver pour un long moment concernant la morale islamique parce que ça nous fait défaut énormément. Oui, tout à fait. Ça dépend. Je vais vous dire une chose. Ben, la règle, quelle est l'utilité? Oui, quelle est l'utilité? Si quelqu'un, par exemple, et ça nous arrive tout le temps, moi ça m'arrive tout le temps, lorsqu'on me demande, par exemple, que penses-tu de M. X? Il a demandé la main de ma fille. Voilà, un exemple flagrant. Ou bien, que penses-tu de X ou Y? Il veut faire un commerce avec moi. Ben moi, j'ai le droit de lui dire, j'ai l'obligation de lui dire, donne ou oui ou non. Il n'a pas le droit de me dire pourquoi. S'il veut ma réponse, ben concernant le mariage, je lui dis, oui, tu peux le faire. C'est quelqu'un de bien. Le bien, on peut le dire à des tonnes. Mais si c'est quelqu'un de mauvais, il dit non, refuse. Pourquoi? Ne me demande pas pourquoi. Pourquoi? C'est inutile. Je ne vais pas te convaincre. À demander mon avis, je te dis feu noir, feu rouge. Et c'est tout. Donc je ne dois pas m'étaler et dire les critiques sur ce frère, c'est ça la médisance. Mais lui dire non, c'est bon. Ça suffit. Ben c'est la même chose. Ah non, c'est la même chose. Si vous avez entendu parler que X a demandé la main de telle personne, ben vous savez que cette personne est indigne et qu'il ne mérite pas d'être l'époux, ben à ce moment-là, vous devez dire, voilà, je crois que c'est un mauvais mariage. Si vous savez que cette personne est un tricheur, un voleur, et quelqu'un qui mange des avoirs des autres, vous devez dire à un frère, j'ai entendu parler que tu vas faire un commerce avec ce monsieur, s'il te dit, ben, ne le fais pas s'il te plaît. Ça vous devez, et le prophète nous a ordonné de le faire, et de le dire, mais à sa juste valeur, à ce que l'information arrive, et il ne faut plus l'étaler, ni aller le dire, et ainsi de suite. L'élégance de la personne qui a entendu ce témoignage, c'est de se taire. Et lorsqu'on lui dit pourquoi tu le refuses, il ne doit pas dire parce que M. Ibrahim a dit. Non, comme c'est le cas de beaucoup de gens. Ils disent, mais pourquoi tu... Il n'a pas le courage de dire, je ne veux pas. Il dit, mais parce que l'imam Ibrahim a dit ainsi de suite. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas imaginer la rafle de critiques et d'insultes que nous recevons. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire lorsqu'on sait que telle personne a été induite en erreur. Et c'est pour ça, malheureusement, c'est lorsqu'un mariage a eu lieu et on dit, mais... Personne ne m'a dit, mais il dit, mais toi, t'as demandé le conseil à personne, t'as fait ton mariage à la cachette, t'as invité personne, là, il fallait, le prophète, alayhi salam, a dit, il ne sera jamais égaré celui qui demande conseil. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, et à la semaine prochaine.
Thank you.